Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodian Rhapsody. Aujourd'hui, un épisode avec une forme particulière puisqu'on est encore sur un entretien, mais sur un sujet plus précis que l'entretien avec Thomas Couette de janvier, puisqu'on va parler d'une série et plus précisément d'un anime, à savoir Excel Saga. Pour nous accompagner, puisque c'est un univers très dense et on le verra assez rapidement, puisque ce n'est pas qu'un anime déjà, puis ensuite l'anime en lui-même est incroyablement dense, j'ai avec moi un spécialiste auto. Enfin, tu me dis spécialiste, toi, on va partir sur ce qualificatif-là.
Je suis un expert en Excel Saga, je dirais. Je suis peut-être le principal expert francophone en Excel Saga. Je vois un culte absolument malsain à cette série. Voilà.
Donc, nous sommes avec un expert de Excel Saga, à savoir Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour, ça va ?
Ça va. Alors, tu es connu des auditeurs de Radio Kawa pour plusieurs émissions, enfin, plusieurs participations à des émissions, notamment LOL Japon, dont tu détiens d'ailleurs un record.
Oui, en fait, j'ai le triste record de l'émission la plus longue, puisque j'avais été invité par Amo et Concombre, dans leur excellente émission LOL Japon, à parler de mon voyage au Japon. Et en fait, l'émission, c'est la fameuse émission qui dure 4 heures, voilà, plus les 2 heures d'after. Donc, pour l'instant, c'est le record de Kawa.
La fameuse. Mais tu es également présent, me semble-t-il, dans Halo Central de manière régulière ?
Oui, quasiment. J'ai fait quasiment tous les Halo Central de la saison et je m'occupe entre autres des rubriques nécrologiques dans Halo Central. Ceux qui écoutent l'émission comprendront.
Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore ces deux émissions, vous inquiétez pas, à la fin de l'émission, vous aurez les deux petits trailers qui vont bien. Mais aujourd'hui, c'est Parodian Rhapsody et c'est Excel Saga. Alors, déjà, avant de commencer sur l'anime de manière plus précise, il faut avant tout rappeler que Excel Saga, ce n'est pas qu'un anime.
En fait au départ c'est un manga, c'est un manga de jeunesse d'un monsieur qui s'appelle Koshi Rigdo, qui à l'époque était pas du tout connu avant Excel Saga, puis qui faisait des petits fanzines dans des conventions. Puis il en a un qui a bien marché, qui s'appelait Municipal Force Daitenzin, qui était horriblement mal dessiné, mais qui était un petit peu qui était rigolo, qui racontait un petit peu une histoire de fonctionnaires municipaux qui essayent de se travestir en super-héros pour combattre le crime. Et en fait, ça a bien fonctionné. Il a vendu pas mal d'exemplaires de ce fanzine-là. Et puis, il a trouvé un magazine pour prépublier un spin-off, en fait, qui s'appelle Excel Saga et qui raconte la même histoire, mais du point de vue des méchants, en fait, des gens qui essayent de conquérir la ville. Et en fait, cette aventure-là, elle va durer de 1995 à 2011 et ça va finir par quand même être un manga de 27 tomes. Donc,
ouais, pas mal. Hein,
une œuvre fleuve. Ouais.
Donc, après ce manga, il y a eu donc l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir un anime de 26 épisodes d'environ 24 minutes. Hein, j'étais assez impressionné de la longueur. Cette fois, c'est assez. On sent que ils sont payés à peu près à la minute hein, sur ce genre de. On parlera de l'animation après parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à dire sur la question de l'animation même dans Excel Saga. Mais me semble-t-il, après, il y a eu des OAV, c'est ça ?
Alors, c'est donc une série qui a une production un petit peu bizarre, parce que déjà, en fait, elle arrive très très tôt dans l'histoire d'Excel Saga, c'est-à-dire que, en fait, la série n'adapte vraiment entre gros guillemets que les 5 premiers tomes du manga, parce que c'est pas vraiment une adaptation, l'anime étant quasiment déjà une parodie du manga. Donc, ça adapte vraiment que le début de ce qui se passe dans Excel Saga, puis ça prend une direction qui est complètement différente, et en fait, à la suite de ces 26 épisodes, dont les derniers épisodes de la série sont déjà un petit peu à part, hein. Notamment le tout dernier, il avait été prévu pour être censuré à la télé, c'est-à-dire il avait été prévu pour ne pas être diffusé. Il y a eu une espèce de parodie spin-off qui parle à moitié de la suite d'Excel Saga, mais à moitié en même temps des doubleurs d'Excel Saga qui imaginent qu'ils voudraient jouer dans la série, etc. Enfin bref, c'est deux épisodes qui ont été produits en 2002, qui s'appellent Puni Puni Poemi, et qui sont devenus assez difficiles à trouver, mais c'est un sacré grand moment de n'importe quoi. Donc en gros, ces deux œuvres, donc Excel Saga et Puni Puni Poemi, constituent l'intégralité de ce qui a été adapté du manga.
Voilà. D'accord. Alors déjà, moi, Steam, c'est pour entamer, hein, non, sur les questions. Steam, je trouve intéressant dans cette multiplicité de formats. Si on a à la fois un manga, puis ensuite une série qui s'entrechoque avec le manga, puis aussi des OAV qui sont à la fois différents, mais égales, c'est le face au caractère extrêmement parodique d'Excel Saga, hein, on y reviendra plus sur la structure. Savoir peut-être dans quelle mesure justement ce changement de média, du manga à l'anime, a-t-il structuré les changements parodiques? Est-ce que, en fait, ce qui peut me paraître intéressant, ce qui m'a, bah, je connais pas le manga, ce sera peut-être les mots qu'on pourra dire sur le manga, c'est que peut-être était-il nécessaire pour correctement parodié dans le cadre d'un anime de changer totalement Excel Saga.
Alors en fait, le manga que moi j'aime beaucoup, hein, Excel Saga, faut quand même que je sois honnête malgré tout l'amour que je porte à cette série, c'est que c'est pas très bon. Enfin non, je suis pas honnête, ça c'est la première vraie œuvre au long cours de Koshiro Rikudo qui a fait d'autres choses après. Mais honnêtement, quand on prend les premiers chapitres d'Excel Saga, il dessine vraiment pas bien. C'est un peu limité quoi en termes de structure, c'est assez répétitif, hein, mais c'est plein de bonnes idées. Voilà. En gros, pour faire rapide, hein, c'est l'histoire de d'un dictateur qui vit, enfin d'un pseudo dictateur qui vit dans les égouts et qui emploie une armée de deux personnes pour essayer de conquérir le monde. Donc dont la fameuse Excel, dont on va suivre le quotidien. Et à partir de ça, il va tisser toute une histoire un petit peu nonsensique pour essayer de retracer un petit peu le quotidien et les ambitions de cette société secrète. Bon, le manga au début, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il y a à peu près un gag par page. La plupart sont assez marrants, mais c'est assez répétitif. C'est assez pauvre en fait en termes de structure. Faut attendre quelques tomes, notamment les tomes 4, 5, 6, avant que ça s'étoffe un peu. Donc, quand il a été question d'adapter Excel Saga, chose rare dans l'animation japonaise, l'auteur du manga a été très étroitement associé à la production de la série. Alors que d'habitude, au Japon, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que l'éditeur vend les droits de la série et à peu de choses près, l'auteur a pas de droit de regard. Là, non seulement il a eu un droit de regard, mais il a été étroitement associé. Et donc, lui et JC Staff, hein, donc le studio qui a adapté, et ils sont partis du principe que le manga était pas adaptable en tant que tel, c'était pas assez, ça tenait pas quoi, c'était pas assez fort. Soit fallait adapter les tomes ultérieurs, soit il fallait partir sur complètement autre chose. Donc à part vraiment la scène de tout début, donc le moment où on voit Excel sortir du lycée et rejoindre donc l'organisation secrète Across, quasiment tout le reste est différent. C'est les mêmes personnages.
Ouais, et c'est vrai. Et c'est vrai que personnellement, je m'étais fait la réflexion, mais cette toute première scène, elle est vraiment presque à part. Elle fait un peu tâche dans l'épisode, c'est-à-dire que on comprend pas pourquoi il y a cette scène-là. Enfin, on comprend au niveau de l'histoire, mais c'est un style totalement différent et ça, ça initie presque une sorte de transition radicale qui est déjà initiée par le message du mangaka en intro, ouais. Avec le manga. Alors, tu parlais de structure au niveau du manga, et pour se rapprocher de notre objet d'aujourd'hui, à savoir plus l'anime, la structure parodique à l'intérieur d'Excel Saga est très particulière. Est-ce que tu peux en dire deux mots donc, pour chaque épisode
ouais.
Donc.
Alors voilà, contrairement au manga qui était quand même notamment voilà à partir des chapitres 20-25 où chaque chapitre suivait quand même le précédent de manière à peu près cohérente, chaque épisode d'Excel Saga s'ouvre en fait par une déclaration de l'auteur du manga qui dit moi Koshiro Rikudo, j'autorise cette semaine Excel Saga à être un animé de alors une semaine ça va être de science-fiction, la semaine suivante ça va être de comédie romantique et on va en fait avoir à chaque épisode un style différent qui va être parodié avec une sorte quand même de fil conducteur, c'est-à-dire qu'il y a des petites trames qu'on va suivre d'épisode en épisode, mais on va dire que c'est un animé où ça pose aucun problème que tous les personnages meurent à la fin d'un épisode. Il y aura juste un message à la fin pour dire de toute façon tout le monde va ressusciter la semaine prochaine et la semaine prochaine eh ben, on parodie un autre style. Quoi.
C'est vrai que alors il y a plusieurs éléments moi dans cette structure là qui je trouve intéressant pour parler de parodie, c'est déjà le fait que ça soit possible, c'est-à-dire que ils aient créé un contexte, une sorte d'univers de base qui puisse être adaptable à ce point-là à tous les genres et qui puisse parodier tous les genres. une sorte de c'est le véhicule de base de Cell Saga qui est introduit dès les premiers épisodes, hein, puisque je crois que la deuxième fille dont j'ai oublié le nom
Hayat.
Hayat n'arrive que après le premier épisode sur la science-fiction. Eh bien, en fait, simplement, je trouve que ce véhicule-là est assez robuste, puisque au final, on arrive vraiment à avoir un petit peu tout, une sorte de beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes qui peuvent être reprises dans plein de genres différents. Et ouais, par exemple, pour donner un exemple de ce que j'ai eu comme impression là, c'est l'utilisation du chien.
De Menchi,
qui au bout d'un moment va pouvoir être utilisé comme personnage principal. On va pouvoir faire varier les focalisations afin d'avoir vraiment un univers dense et justement pour varier les parodies. Moi, je trouve ça assez ouf en fait.
Ouais, il y a un côté très malin en fait dans cette adaptation pour justement faire varier les points de vue et ça passe notamment par le fait que par rapport au manga, il y a des personnages qui ont été rajoutés. Alors, à l'inverse, il y a des personnages du manga qui n'apparaissent pas dans la série, mais il y a notamment une sorte de personnage qui fait un peu penser au tribunal vivant dans l'univers Marvel, qui est la volonté suprême de l'univers, Is-Chan, qui a une capacité, en fait, à rebooter l'univers quand ça va pas, en fait, quand ça déraille trop loin. La même chose, en fait, il y a des personnages qui ont des destins complètement différents dans le manga et qui, dans l'animé, ont reçu, en fait, des trames narratives complètement différentes pour donner cette souplesse de rebond en fait d'épisode en épisode. Et ça, pour le coup, quand on compare les deux œuvres, c'est vraiment extrêmement malin, quoi. Et effectivement, les épisodes sur Menchi sont très très drôles. Je trouve que Menchi, c'est un chien qui est adopté par Excel pour servir de ration de survie en fait. voilà, donc ça c'est il y a tout un pan d'histoire qui est développé autour de ça, et c'est vraiment très 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 astucieux.
Tu parlais justement de beaucoup de niveaux, de ce que j'appelle le méta, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre en avant à la fois l'œuvre originale, le manga, qui est adapté de manière très libre, comme on l'a vu, mais aussi on va aussi avoir des présences du réalisateur du manga, enfin de l'anime, du coup le réalisateur de l'anime,
Deshin. Et aussi
Deshin, mais également. En fait, justement, avoir cette volonté-là du scénario, en fait, on va avoir beaucoup de niveaux, à la fois en termes d'écriture, de réalisation, qui vont être présents en tant que personnages dans le manga, et qui vont pouvoir aussi agir eux-mêmes sur le scénario. C'est assez dingue, je trouve, d'avoir... vraiment, ce que j'appelle, moi, le méta, c'est-à-dire cette mise en abîme qui est quasiment infinie, en fait.
Ouais.
On a à la fois les adaptations qui sont présentes, on a un peu tout qui est présent, on a des copies des personnages principaux qui arrivent parfois comme ça, qui pop.
Des cosplayeuses qui arrivent en disant oui, on est les Excel Girls, on est déguisé en Excel, on voudrait jouer dans la série. Enfin, c'est très. Enfin, le sous-titre d'Excel Saga, c'est Animation Expérimentale Excel Saga, en fait, hein, quand on traduit le titre japonais complet. Et c'est vrai, il y a vraiment des tentatives qui partent dans tous les sens, hein, avec effectivement notamment la présence du réalisateur d'Excel Saga, qui est lui-même personnifié en tant que personnage dans la série. Et c'est amusant d'ailleurs, parce que ça a marqué au Japon, puisque ce personnage de Nabeshin, donc, est un mec complètement improbable avec une grande afro dont le costume ressemble beaucoup à Spike de l'animé Cowboy Bebop, en fait c'est devenu un personnage de la culture populaire japonaise, c'est-à-dire que les gens qui sont très attentifs dans plein de séries japonaises à la suite d'Excel Saga, on peut voir des Nabeshin en fait qui traînent à droite à gauche, hein, parce que c'était la première fois en fait qu'il y avait ce niveau de délire où on voyait à la fois une œuvre adaptée mais aussi le staff de l'œuvre qui se représentait lui-même, qui était en représentation à l'intérieur de la série, puis des parodies de cette représentation qui vont arriver vers la fin de la série. Enfin, il y a des trucs qui sont absolument incroyables, quoi. Sachant aussi que la série, c'est aussi un grand best-of de parodies de toute l'animation japonaise des années 80 et particulièrement des années 90. Voilà, donc il y a vraiment un niveau de lecture qui est assez inédit pour une série d'animation japonaise. L'animation japonaise étant quand même généralement assez premier degré vis-à-vis du méta.
Voilà. C'est vrai que c'était assez étonnant de le voir, mais il y a un truc qui m'a fait un peu peur en regardant la série, c'est
vraiment... Un seul, ça va. Ça.
Non, évidemment. C'est vrai que cette folie-là, elle est assez destructrice au niveau des enjeux, par exemple. C'est vrai que la question des enjeux dans la série m'a fait un peu peur, parce que, pour faire un lien, par exemple, avec l'épisode précédent, l'épisode sur Hitler et Scapoute, où justement le film détruisait énormément ses enjeux, où ça servait pas du tout le scénario là. Par exemple, dans Ansel Saga, il y a la question de la mort qui est transformée en effet comique en fait. Du coup, les enjeux autour de la mort sont totalement détruits. Là, il se trouve que, en fait, bah justement, ce caractère ultra destructif de cette folie, elle sert quelque chose. Elle sert vraiment la série, elle sert vraiment à la fois l'humour, mais je trouve qu'elle sert également autre chose. C'est-à-dire que la destruction permet toujours une sorte de construction. C'est-à-dire que on va empêcher un personnage de mourir, mais ça va ensuite permettre de développer ce personnage-là, ou je pense par exemple au travailleur immigré qui.
Oui, Pedro, le pauvre, qui est un personnage qui existe dans le manga, mais il est dans une case du manga. Et en fait, à partir de cette case du manga, ils ont développé toute une histoire dans la série où on le voit 30 secondes par épisode, Pedro, mais on suit son histoire effectivement d'épisode en épisode, et c'est assez incroyable.
Et du coup, moi, une réflexion que je me suis fait, c'est que, en fait, la destruction, et en fait, je pense que le qualificatif que tu as utilisé, qui est celui de malin, pourrait vraiment résumer toute la série. C'est-à-dire que ils utilisent la destruction, mais avec une certaine, pas forcément une certaine parcimonie, mais une certaine intelligence, une certaine malice, ce qui fait qu'en fait, on va vraiment, genre, on va pas juste détruire des enjeux pour détruire des enjeux, on va surtout détruire des enjeux pour détruire les codes derrière. Et je sais pas si t'as des exemples particuliers, moi j'essaie d'en chercher depuis tout à l'heure, mais bon, c'est vrai que l'exemple de Pedro est assez étonnant parce que du coup, on va simplement que dans le premier, pour le coup, ça on peut spoiler, vu que c'est quand même le
Oui,
premier
c'est
épisode,
la fin du premier épisode.
il est censé mourir.
Oui,
Et le fait.
c'est que le début de sa quête, en fait, sa mort, à Pedro.
C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, cette destruction d'enjeux-là, elle ne sert pas qu'à faire de l'humour, elle sert aussi les enjeux plus profonds, qui sont les enjeux parodiques de la série. C'est-à-dire qu'on va simplement aller au-delà des codes, on va voir derrière ce mur un peu épais que peuvent être les codes, notamment dans certains genres d'anime. Et c'est de voir un petit peu pousser au-delà de ça et voir tout le ridicule que ça peut amener.
Ouais, il y a un épisode que j'aime bien, donc il doit situer vers les deux tiers de la série à peu près, qui est un épisode qui parodie un peu les codes du boys love et les codes du visual kei, enfin du rock japonais, avec des chanteurs très androgynes, etc. Parce que il y a un personnage qui débarque comme ça dans un épisode, et en fait c'est un épisode qui sert littéralement à rien. Mais vraiment, il sert à rien dans la série. Il a aucun enjeu, et en fait, il est planté là en plein milieu de deux arcs narratifs. En fait, l'arc narratif qui va mener en fait à la fin d'Excel Saga. Et il y a ce truc-là qui est planté au milieu comme un poteau, qui est une parodie, qui est sale, qui est crade, qui est vulgaire, etc. Qui est en rupture avec le reste du ton de la série. Et c'est une série qui s'amuse beaucoup à faire ça. Elle joue beaucoup avec ce qu'on en attend. C'est-à-dire, ah bah à l'épisode précédent, il s'est passé ça, donc vous attendez que telle chose arrive. Et la série, à la dernière seconde, elle va vous dire. Ben non, on va prendre complètement une autre direction, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de nous moquer d'un autre genre la semaine prochaine, quitte à ce que les enjeux que vous pensez avoir été construits depuis deux trois épisodes soient complètement mis par terre, souvent avec une bonne raison. Et la bonne raison, on en revient toujours au fait que la plupart des personnages qui sont dans cette série sont des gens qui sont profondément incompétents dans ce qu'ils font. Voilà.
C'est vrai.
Et que ce soit les gentils comme les méchants, enfin les gentils, peu importe, les gens qui travaillent pour la ville ou les gens qui travaillent à sa destruction, sont des gens qui en fait sont profondément déjà inadaptés à la société japonaise et sont profondément incapables de remplir leur travail, en fait. Voilà.
Oui, ça te,
Oui,
je
non, vas-y,
suis.
non, j'avais pour l'instant fini mon
Il n'y a
propos.
pas de souci.
Ouais.
Mais moi, ce qui me paraissait. En fait, c'est un élément qui, pour moi, me paraissait également jouer avec le fait qu'en fait, les enjeux, ça nous touche pas particulièrement. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses absolument folles, mais que ça nous fasse juste rire, ou enfin qu'on soit pas choqué, ou qu'on ne perd pas d'intérêt pour la série pour autant. C'est le fait qu'en fait, ça soit un anime. Et je trouve que le côté graphique est justement qui passerait pas du tout dans un film. Le côté
Non, ouais.
absolument le côté totalement absurde qui est lié intrinsèquement avec le fait que ça soit dessiné, ça joue énormément aussi sur le fait que c'est pas grave s'il n'y a pas vraiment d'enjeu, ou si c'est pas grave si c'est pas forcément les enjeux qu'on attendait.
En fait, Excel Saga, ça fait quelque chose que les Japonais font souvent assez mal. C'est pour ça que cette série, elle me semble atypique, notamment à l'époque où elle est sortie. C'est l'humour cartoon, en fait. Excel Saga, c'est un cartoon. Il y a des épisodes, ça pourrait être des épisodes des Animaniacs, ce serait pareil, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va jouer avec le fait que les personnages, à la limite, leurs bras peuvent s'étendre, ils peuvent tomber dans une oubliette, parce que ça arrive souvent à Excel, hein, et puis revenir. Il y a vraiment un côté, des fois, Bibip et Coyote, quoi, presque dans ce qu'on voit.
C'est vrai.
Et c'est très atypique, en fait, pour l'animation japonaise, qui joue pas tellement sur ces registres-là. La même chose, le fait que chaque épisode soit une parodie, c'est aussi assez atypique, parce qu'il faut savoir que la parodie au Japon, ça va pas de soi. Alors, ça existe, hein, mais c'est pas une forme d'humour qui est particulièrement appréciée, notamment parce que il n'y a pas de droit qui protège la parodie au Japon. Donc, c'est risqué, en fait, de faire des parodies au Japon, parce qu'on peut très vite se retrouver assigné pour avoir fait une parodie. Alors, faire des fanfictions, faire des trucs à petits exemplaires, ça pose pas de problème. Mais il faut savoir que, par exemple, récemment, il y a une série qui s'appelle Ozomatsu-san, qui est très populaire cette année au Japon, enfin l'année dernière au Japon, dont le premier épisode a été interdit de diffusion parce que pendant une seconde, il y avait une parodie de Sailor Moon dedans. Pendant une seconde.
Oh mon Dieu.
Voilà. Donc, c'est pas un style sur lequel les Japonais sont particulièrement à l'aise, en fait, la parodie. L'absurde un peu plus, donc il y a beaucoup d'absurde, effectivement, dans Excel Saga. Beaucoup de codes, en fait, qui sont montrés et détournés de telle manière à ce qu'il n'en ait plus, il n'ait plus aucun sens. L'épisode sur la science-fiction, hein, qui est le deuxième épisode, il est hilarant de ce point de vue-là. C'est que rien de ce qu'on voit à l'écran ne fait sens, quoi. Les extraterrestres, on dirait des peluches. Quand on leur frappe dessus, ils se mettent à avoir la tête de Golgo 13, donc un tueur à gages japonais assez connu, c'est pareil, dans les mangas des années 70. Tout d'un coup, on voit que la princesse, qui va se retrouver être la deuxième membre de l'organisation Across, elle est dans un machin réfrigéré qui est trimballé par un space butler qui a les cheveux, alors je crois, jaunes et violets. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont piqués à droite et à gauche dans tous les genres qui sont parodiés et qui sont mis, en fait, devant l'œil du téléspectateur en disant, mais regardez, on joue avec comme si on était des enfants dans une chambre d'écolier, en fait. Et ça, c'est assez atypique, notamment par rapport aux autres animés humoristiques, moi, que j'ai pu voir.
Mais, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, j'ai aussi l'impression, au-delà justement de ce caractère peut-être très enfantin, que c'est une série qui se veut presque anti-système, pas du système de manière générale, mais plus de la manière dont de la production des animés au Japon.
Ouais, alors c'est tout à fait vrai. Il faut voir que Excel Saga, ça arrive dans une période qui est particulière. C'est adapté entre, je crois que ça doit être entre octobre 99 et mars 2000, donc au tournant du siècle. C'est une période où l'animation japonaise sort d'une forme d'âge d'or, en gros l'âge de la VHS, et va rentrer dans un âge de plomb, que sont les années 2000, qui sont, en gros, c'est une mauvaise décennie, quoi, pour l'animation japonaise, notamment parce qu'il va y avoir un changement de technologie. Hein, on va passer, en gros, de la pellicule à l'ordinateur, et ça s'est très mal passé. Il va falloir 10 ans pour que l'animation japonaise s'en remette. Il y a des très bonnes séries, hein, dans les années 2000, mais Excel Saga est produit, en fait, à un moment très particulier où la société japonaise va pas bien parce qu'il y a eu la crise des marchés asiatiques de 98 qui a pas tellement impacté l'Europe, et il y a une grosse crise économique, en fait, à cette époque-là, donc l'argent se raréfie, en fait, au Japon. En même temps, pour la première fois, le Japon commence à connaître un phénomène qui est nouveau chez eux, c'est le chômage, et le phénomène, en fait, des gens qui n'ont plus un emploi à vie. Donc, il va y avoir une nouvelle catégorie qui va apparaître, qui existe encore aujourd'hui, hein, qui s'appelle les NEET. C'est les gens qui n'ont, en gros, qui vivent de petits boulots, quoi, qui sont pas dans une grande société, qui sont pas en train d'étudier, qui sont pas en formation. Tous les personnages quasiment qu'on va voir dans cette série, c'est des NEET, en fait. Excel, c'est une NEET, hein, elle fait que des petits boulots, elle a pas à manger, elle vit dans un appartement merdique en colocation, etc. Il faut savoir que toutes ces catégories-là, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans des tout petits appartements, qui galèrent, etc., dans l'animation grand public, c'était des catégories qui ne sont jamais représentées. De la même manière que à cette époque-là, en tout cas, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais Excel Saga, c'est aussi un des premiers animés qui va dire, voilà, aujourd'hui, la société japonaise, elle va pas bien, on a moins de sous qu'avant pour produire des animés, les gens qu'on représente, c'est pas des gens qui sont insérés dans la société. On peut dire qu'en plus, ils ont pas des attitudes héroïques. Excel, donc, elle est c'était l'héroïne de la série, mais elle a pas un comportement. Moi, je l'aime bien parce que c'est un personnage pour lequel j'ai de l'attachement, mais on n'a pas envie de la fréquenter en fait. Excel, elle est psychotique, elle idolâtre son maître qui est quand même une espèce de loser qui vit dans les égouts. Elle a des comportements déviants tout le temps. Elle est extrêmement violente. Et en fait, c'est une des premières fois où un animé humoristique va quand même présenter la société japonaise sur un ton quand même aussi sombre. Il faut savoir que le Japon, après j'en finis avec ma longue litanie, mais c'est un pays qui est beaucoup dans l'auto-célébration. C'est le Japon, c'est pour ça qu'on voit dans les animés souvent des personnages agiter des petits drapeaux japonais, etc. C'est un pays patriote, quoi. Ça se fait pas de dénigrer le Japon, ou alors il faut le faire vraiment sous une œuvre très profonde, analytique, etc. Excel Saga va prendre cette année 1999-2000 et dire voilà, le Japon, c'est n'importe quoi, et les gens qui vivent au Japon font n'importe quoi. Et de ce point de vue-là, c'est une série qui est assez atypique. Et quand tu parlais un petit peu du fait que, oui, c'est une série qui est entre guillemets anti-système, oui, c'est une série qui va se moquer aussi de la manière dont fonctionnent notamment les services publics au Japon. Oui. Puisqu'on voit bien que les gens qui vont combattre l'organisation Across, donc la fameuse municipale force d'Aitenzin, donc des espèces de super-héros employés par la ville, eux-mêmes, on sent bien que déjà c'est des gains petits, quoi. Ils sont dans ce service-là parce qu'il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Leur chef de service, un espèce de savant fou complètement incompétent, dont la principale préoccupation c'est de pas perdre sa fausse moustache. Enfin, y a énormément d'enjeux en fait qui sont posés comme ça, où on voit en fait des personnages qui sont tous plus minables les uns que les autres, même si je les adore tous, quoi. Et il me semble qu'effectivement ta remarque est très juste. C'est une série qui dénonce quand même par le fond un petit peu quelque chose, quoi. Une sorte d'état social de la société japonaise qui du moins au tournant du siècle était inquiétant, quoi.
Mais comment dire, quand tu parlais par exemple de la, une sorte de parodie, en tout cas une critique du côté beaucoup d'auto-célébration au Japon, je pense notamment à l'épisode sportif où tu
oui.
as
c'est moi, mon épisode préféré.
Il Palazzo au tout début avec son petit drapeau, ouais, allez le Japon.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est pareil. Il Palazzo, c'est alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une parodie d'empereur du Japon, mais quelque part, il y a quand même ce côté. On n'a pas l'habitude, en fait, que le chef d'une organisation dans les animés japonais, même si c'est plus fréquent aujourd'hui, hein, ce type de parodie, c'est quand même pas mal démocratisé. Si, à mon avis, on n'a jamais retrouvé ce niveau d'excellence. On parle quand même d'une héroïne, en fait, qui travaille quand même pour quelqu'un, qui est supposé avoir une ambition mondiale, et qui passe toutes ses journées à rien faire. Hein. C'est-à-dire que Il Palazzo, c'est quand même. Il est assis sur sa chaise toute la journée et il fait rien. On le voit de temps en temps essayer de jouer à Jeux Interdits à la guitare. Il passe ses journées à faire des jeux vidéo et lui-même en fait c'est aussi une parodie d'autorité, quoi. Et l'autorité est beaucoup parodiée en fait dans Excel Saga. C'est pareil, ce qui va pas du tout de soi en fait pour le Japon. On peut se moquer de soi, mais se moquer de l'autorité c'est quand même quelque chose qui est compliqué.
Et c'est vrai que. Bah, déjà, on remarque que c'est à la fois une série qui est totalement ancrée dans le Japon, hein. C'est une série qui est profondément culturelle.
Et c'est très japonais, oui.
Et c'est pour ça. Enfin, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré faire cet épisode avec quelqu'un qui avait les références culturelles, parce qu'il faut être ancré, faut avoir les connaissances relatives au Japon pour, je pense, comprendre la série. Justement, pour un public, on va dire, plus européen, on va dire. Est-ce que cette série peut, malgré tout, être appréciée, à ton
Alors,
avis
oui, je pense, parce que déjà, il y a un travail d'adaptation qui a été fait par les gens qui ont adapté la série, déjà, qui est vraiment très conséquent. Je suis pas souvent fan des versions françaises dans les séries japonaises, enfin, des versions françaises en général, parce que j'ai plus l'habitude, en fait, mais il faut savoir que Excel Saga a, que ce soit au niveau des sous-titres ou de son doublage, a une excellente version française. Notamment grâce au travail de Pascal Chemin, qui est aussi la voix du commandant Shepard dans Mass Effect, hein, les vrais Saurons, qui double Excel et qui fait un travail vraiment extraordinaire. l'époque à laquelle Excel Saga est arrivé en France, c'est aussi une époque où en France on avait un peu de sous au niveau de l'animation japonaise. C'est-à-dire que c'était le moment où les DVD marchaient bien, quoi. Les DVD marchaient bien, Canal Plus a mis des billes pour diffuser la série, il y avait des moyens. Et les moyens, ils se ressentent dans la série. C'est-à-dire que c'est une série qui est bien adaptée, les codes culturels sont subtilement adaptés pour que ce soit compréhensible par un public occidental. Donc déjà, si vous tombez sur la version officielle française, vous allez être un petit peu mis en confort. Ensuite, c'est une série qui marche aussi sur plein de formes d'humour qui sont quand même assez universelles. Quand je parlais d'humour cartoon et d'humour Bibi et Coyote, il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi de ce point de vue-là dans Excel Saga, c'est-à-dire que si on connaît un petit peu la science-fiction, si on connaît un petit peu les histoires de super-héros, si on a regardé, alors moi j'allais dire Bioman, mais parce que je suis vieux, mais les Power Rangers quand on était petit, il y a des choses qu'on va de toute façon comprendre parce qu'il y a des codes qui sont devenus universels. Après, quand on connaît bien la culture japonaise, c'est un plus. C'est pas une frontière de pas bien la connaître. Faut quand même avoir une sensibilité pour l'humour un peu japonais, un peu manga, quoi. Hein. Mais c'est pas une barrière si on n'est pas un spécialiste de la civilisation japonaise. Par contre, c'est un plus si on s'y connaît bien.
Et ça peut peut-être être une sorte d'introduction, c'est-à-dire que peut-être par le biais d'Excel Saga, on peut avoir accès, par exemple, déjà avoir une certaine Par la parodie, on peut toujours remonter à la source, avoir une certaine, par exemple, culture sur comment fonctionne l'univers des animes au sein du Japon. Est-ce que, par exemple, pour le coup, vu que je parle plus là aux spécialistes et à la personne, est-ce que Saga, ça a été antérieur ou postérieur à ta passion plus générale pour le Japon, peut-être? Ou est-ce que c'était un tremplin, peut-être, d'une certaine manière pour toi?
Alors, c'est marrant que tu poses la question parce que j'étais assez otaku, voire pire, hein. Avant déjà. Je lis des mangas en fait depuis, j'en regarde depuis 1980, j'en vais pas dire combien, mais je lis des mangas depuis 1993 à peu près. Donc Excel Saga, ça arrive quelques années plus tard. Et si ça m'a pas transformé en fan du Japon, parce que ça j'étais vraiment déjà dedans et tout, ça m'a clairement donné envie de creuser dans certains genres que je connaissais pas. Parce que il faut savoir qu'Excel Saga, à un moment donné, c'était quand même une série qui m'obsédait, hein. Je l'ai vu 10 fois, quoi, cette série. Donc à un moment donné, je m'amusais à lister un petit peu toutes les parodies qu'il pouvait y avoir dedans, notamment sur des styles d'animé que je connaissais pas bien du tout, type les animés autour du sport, les animés autour de la science-fiction, de robots, etc. Enfin, des trucs qui sont un peu en dehors de ma zone de confort. Et oui, clairement, moi, ça m'a ouvert des portes, en fait. Parce que chaque épisode du dessin animé, en fait, est vraiment un condensé de tous les codes qu'on va avoir dans un style donné, quoi. Souvent pour les moquer, mais quand même de manière assez respectueuse. Je reprends le fameux épisode du baseball, qui est vraiment moi mon épisode préféré, où Excel va se retrouver prof dans un lycée de racailles, en fait, mais avec un côté complètement anachronique, parce que c'est en fait les voyous qu'elle va encadrer, c'est des voyous des années 80. C'est-à-dire que c'est déjà complètement anachronique. C'est comme si on avait quelqu'un qui arrivait là dans un lycée et tout le monde aurait des blousons noirs, des bananes et parlerait en verlan, mais en verlan des années 80, quoi. C'est comme si elle arrivait qu'il y avait Smaïn à une table en train de faire des graffitis, quoi. Et c'est quand même une parodie extrêmement respectueuse de tous les animés de Bozozoku. En fait, les Bozozoku, c'est les voyous au Japon, mais les voyous des années 80, quoi. Et tout ça, ça m'a fait m'intéresser à cette culture-là, qui était une culture que je connaissais pas bien avant. De même qu'il y a pas mal de détails de la vie quotidienne au Japon et de la manière dont vivent les Japonais, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans la vie quotidienne d'Excel, en fait, parce qu'elle est souvent en mission, en fait, mais c'est des missions minables, hein. C'est vraiment va conquérir la piscine, parce que la piscine, c'est la clé, parce qu'une fois qu'on maîtrise le tourisme, on va maîtriser la ville. Enfin, c'est le genre de mission qu'elle reçoit. Donc on voit beaucoup de Japonais, en fait, dans des situations de la vie quotidienne, c'est-à-dire en train d'aller faire leurs courses, en train de rentrer chez eux, en train de payer leurs factures, hein, et moi ça m'a ouvert beaucoup de choses, en fait, simplement sur comment c'est que le Japon. Il faut savoir que Excel Saga, et ça c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte en préparant l'émission, la ville qui est présentée dans Excel Saga, qui est F-City, en fait c'est une parodie de Fukuoka. Fukuoka, qui est une ville dans laquelle je suis allé l'an dernier. J'ai fait le tour du Japon l'an dernier et j'ai vu cette ville, qui est une ville du sud du Japon, d'environ 400 000 habitants, ce qui est considéré comme une toute petite ville au Japon, hein, donc c'est vrai que c'est, en fait, Fukuoka, c'est typique de la ville dortoir, un peu C'est la ville lambda, en fait, Fukuoka. Si on veut présenter une petite ville de province, un peu chiante, c'est cette ville-là qu'on va montrer. Et c'est la ville qu'on voit dans Excel Saga. Donc, ouais, c'est une bonne porte d'entrée aussi pour un petit peu voir qu'est-ce que c'est qu'une rue au Japon, qu'est-ce que c'est qu'un supermarché au Japon. Il y a plein de trucs qui sont très intéressants, en fait, notamment dans le manga, dans l'anime aussi, hein, mais le manga, va, comme il dure sur une beaucoup plus longue période, c'est très intéressant. Parce que, en plus, le manga va retracer quasiment 20 ans de la vie quotidienne au Japon. L'anime est concentré vraiment sur cette période 99-2000.
D'accord.
Question, ça m'a ouvert porte.
Et du coup, c'est vrai que c'est assez ouf parce que on a à la fois beaucoup de parodies, mais aussi beaucoup de simplement d'observation de ce qui est effectif au Japon. Alors que ça soit justement à un niveau plus civilisationnel, on a à la fois des critiques comme on l'a vu précédemment, mais aussi au final une vision de ce qu'était peut-être, parce que peut-être ça serait intéressant de voir si le Japon a évolué depuis les années où ça a été dessiné, Excel Saga. D'ailleurs, justement, peut-être qu'il y a peut-être des éclairages à ce niveau-là.
Ouais, alors, sur le manga, c'est moins évident, parce que le manga dure beaucoup plus longtemps. Donc en fait, finalement, même le style de l'auteur, hein, quand je dis qu'il savait pas dessiner au début, c'est très amusant parce que lui-même s'en moque, puisque le tome 27 d'Excel Saga, c'est exactement la même couverture que le tome 1, sauf qu'entre les deux, il a appris à dessiner. Donc c'est un peu une manière de dire au revoir en disant « Regardez, voilà, maintenant j'ai appris, quoi. Ça fait 15 ans que je dessine ça et j'ai appris à faire ça. » Par contre, dans l'anime, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un léger décalage entre ce qu'on peut voir effectivement dans Excel Saga et ce que moi j'ai pu voir quand j'étais au Japon. Parce que simplement, c'est un peu la même chose que si on filmait une ville française en 1999 et qu'on la filmait maintenant. On rit pas exactement de la même chose. Les animés qui sont parodiés sont pas parodiés de la même manière que ce qu'on ferait aujourd'hui. Je prends un exemple tout bête parce qu'il y a aussi des éléments qui aujourd'hui ne passeraient plus dans Excel Saga, qui sont des trucs qui pouvaient faire rire à la limite il y a 15 ans, qui font moins rire aujourd'hui. Il y a un personnage qui est, il est pas exclusif à la série puisqu'il est aussi dans le manga, mais il est pas pareil dans le manga. En gros, il y a un personnage qui a clairement un problème, qui a un problème avec les enfants dans l'anime, enfin, on voit que c'est un pédophile, quoi. Il y a beaucoup de blagues autour de ça. Aujourd'hui, on pourrait plus les faire de la même manière. Je dis pas qu'on pourrait pas les faire, mais il faudrait les faire de manière plus subtile, un peu plus contournée, parce que le Japon a eu pas mal de problèmes vis-à-vis de la représentation de la pédophilie, en fait, dans les mangas, hein. Notamment dans tous les mangas érotiques et pornographiques. Bon, il y a jamais rien qui va dans ce niveau-là avec Excel Saga, hein. C'est pas un anime qui est ni voyeuriste, ni, il est d'ailleurs assez exemplaire, hein, de ce point de vue-là. Il y a très peu de fanservice, en fait, dans Excel Saga. Il y a beaucoup de personnages féminins. Ils sont très peu. Oui.
Et d'ailleurs, ça s'en moque à un moment donné. Il y a un épisode avec que des filles et ça s'en moque particulièrement bien, je trouve.
Ouais, ça se moque beaucoup du fanservice, en fait, et du côté un peu libidineux qu'il peut y avoir des fois. Et voilà, Excel Saga, c'est un manga qui a beaucoup de personnages féminins forts qui sexualise rarement ses héroïnes, donc ça c'est bien. Mais pour reprendre mon exemple, ouais, il y a des trucs qui pourraient plus passer tel quel aujourd'hui. Parce que le Japon a évolué sur ces questions-là, parce que il y a aussi parfois la remise en question de ce qui se fait. Et je pense aussi que ce qui était à la mode, en fait, tout bêtement au Japon, il y a 15 ans, c'est tout naturel, ça ne l'est plus aujourd'hui.
Évidemment.
Voilà. Donc, tout bêtement, ouais, il y a quand même une évolution. Ceci dit, il y a un côté quand même qui est très intemporel, en fait, dans l'humour qui est employé, quoi.
Oui, c'était sur l'absurde, c'est intrinsèquement intemporel, quoi. Alors, depuis qu'on commence cet épisode, il y a beaucoup de parallèles, je trouve, qui pourraient être faits, notamment autour de l'auteur, notamment autour de ces questions de critique de la civilisation et d'évolution à travers le temps, avec les Simpsons aux États-Unis. Notamment le fait que Matt Groening, qui est le dessinateur des Simpsons, au tout début ne savait pas dessiner, et il a joué notamment avec ça. Et aussi le côté assez anti-système, à la fois, critique, on va dire, d'aspect civilisationnel, à la fois dans les Simpsons et à la fois dans les Excel Saga. Est-ce que t'as déjà pensé à ce parallèle-là?
Ouais, en fait, moi, c'est pas tant aux Simpsons que ça me ferait penser, en fait, c'est un peu à South Park.
Oui,
si tu veux, parce que, les Simpsons, malgré tout, même si j'ai arrêté de suivre depuis une bonne dizaine d'années, ont effectivement, hein, ça, c'est un peu la même forme d'humour, c'est-à-dire très mordante sur la société, avec des personnages récurrents dont on fait un petit peu n'importe quoi. Mais les Simpsons, à part sur les épisodes d'Halloween, gardent toujours quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire que, par exemple, les personnages d'extraterrestres dans les Simpsons, les Kang et Kodos, là, ils ne sortent en fait que pour Halloween, à peu de choses près. Les aventures qu'on voit dans les Simpsons sont souvent, je vais employer vraiment un grand mot, un très grand mot, mais elles sont vraisemblables, notamment sur les premières saisons des Simpsons. C'est-à-dire, ce qui se passe pourrait, avec beaucoup d'exagération, arriver.
Elles manquent d'absurdité, plutôt. C'est-à-dire que...
Voilà. Il y a peu d'absurde, en fait, dans les Simpsons. Oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté d'épeindre la vie dans une petite ville et ce qui peut mal se passer, en fait, avec des personnages qui, aussi, pour la plupart, sont caractérisés pour leur lâcheté, leur incompétence, leur petitesse, en fait. Hein. Notamment les premières saisons des Simpsons, où, pour le coup, même des personnages comme Homer Simpson, qui sont devenus des personnages qui sont adulés dans la civilisation occidentale, premier épisode des Simpsons, notamment les 2-3 premiers, Homer Simpson, c'est un père qui bat ses enfants, alcoolique. Enfin, c'est. Faut revoir hein, les tout premiers épisodes des Simpsons. C'était beaucoup beaucoup plus amer et beaucoup plus acide. Amer Simpson. Et par contre, là où je fais une comparaison avec South Park, c'est que South Park en fait, c'est jamais embarrassé de vraisemblance. C'est-à-dire que le premier épisode de South Park, c'est Cartman qui se fait enlever par des extraterrestres qui lui mettent une sonde anale, quoi. Enfin, et Excel Saga me fait penser un petit peu à ça aussi. Et c'est peut-être pas complètement innocent d'ailleurs que les deux séries commencent quasiment en même temps. Enfin, Excel Saga, le manga, c'est 96. South Park, finalement, l'épisode pilote, c'est 96 aussi. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a, cette fin des années 90 où il y a quand même une forme de carcan qui saute dans la création un peu partout, où on va s'autoriser à faire, à se dire finalement. On est passé par le modernisme, on est passé par le postmodernisme. Qu'est-ce qu'on peut faire après, quoi? C'est-à-dire, maintenant, on a déconstruit les genres, on s'est bien amusé. Mais au final, qu'est-ce qui nous empêche de faire un truc où on met une sonde anale dans les fesses de quelqu'un et finalement, ça se tient, quoi? Ça se tient quand même, quoi.
Et je trouve peut-être intéressant, oui, c'est que, en fait, aujourd'hui, et je pense qu'on le remarque peut-être même avec. Moi, je pense beaucoup aux évolutions de Canal Plus par rapport aux années 90 et aujourd'hui ce que c'est en train de devenir. C'est que aujourd'hui, on a à la fois un manque de séries comme Excel Saga, que ça soit en France, mais au Japon aussi. Hein, je sais pas. T'avais l'air de dire que au Japon, c'était des séries qui ne pourraient plus être faites exactement pareil au Japon.
Pas aujourd'hui. De la même manière. Voilà.
Et c'est peut-être vraiment totalement. Enfin, en tout cas, grandement, en tout cas, le fait de faire ce genre de série-là, c'est vraiment peut-être marqué un temps, et qu'aujourd'hui, ça serait bien plus difficile, ouais, c'est ça, c'est que ça marcherait pas pareil, et puis il y a vraiment de parodie aujourd'hui, c'est que la parodie, dans les années 2010, ça a quasiment totalement disparu, quoi.
C'est, alors, ça existe encore, c'est pas porteur, mais comme je disais, au Japon, ça a jamais été un style porteur, la parodie. Dans plein de mangas, on voit des moments, il peut y avoir des chapitres parodiques ou une petite blague en fond qui peut être une parodie, mais quelque chose qui est entièrement une parodie, c'est difficile. C'est difficile pour des raisons culturelles, judiciaires, pour plein de trucs, ce qu'on disait tout à l'heure, mais je dirais pas que ça a complètement disparu. Il y a toujours au Japon beaucoup d'animés humoristiques. Après, ils sont plus diffusés en France comme ils pouvaient l'être avant, c'est-à-dire que il y a eu toute une période des années 2000 où notamment Canal+, c'est complètement inenvisageable aujourd'hui, mais a vraiment mis le paquet sur l'animation japonaise, quoi. A vraiment fait l'effort d'aller chercher des séries au Japon, d'en assurer l'adaptation, la diffusion à une heure de grande écoute en clair. La fameuse émission La Case qui existait en 2004, qui a permis de diffuser des séries mais vraiment de très très bonne qualité, quoi, en France, à une heure où finalement il y avait 20 ou 30 millions de personnes devant la télé, dont 1 ou 2 millions qui pouvaient regarder Canal+, quoi. Faut voir que Excel Saga, ça pouvait faire, c'est inenvisageable aujourd'hui, une série d'animation japonaise qui soit pas pour enfants qui fasse 2 millions de téléspectateurs. C'est tout simplement pas possible. Parce que la télé, ça a changé, parce que maintenant il y a beaucoup plus de chaînes, et aussi parce que tout simplement, la diffusion d'animation japonaise, je mets vraiment les enfants à part. En gros, c'est Game One pour Naruto, No Life pour quelques trucs un peu plus pointus. Et puis sinon, c'est des sites spécialisés, quoi. C'est des sites spécialisés ou des chaînes câblées payantes. Après, il y a depuis quelques années une forte production de trucs absolument barrés, absolument incroyables au Japon. Tout à l'heure, je parlais de Ozomatsu-san, donc qui est une série que je suis en train de regarder en ce moment, qui est un remake d'une série des années 60. Qui parle de sextuplés, qui vivent des aventures dans une ville. Et c'est la première série depuis des années qui me fait un peu penser, dans son style d'humour et dans sa structure, à Excel Saga. C'est-à-dire que c'est une série où y a un épisode où on va tout à fait pouvoir se dire on arrête l'intrigue, maintenant ça devient un truc de science-fiction, et les sextuplés, au lieu d'être des sextuplés à Tokyo qui vivent leur vie, ça devient des rangers de l'espace, quoi. C'est une série qui arrive à faire ça, et c'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est rare, c'est pas, c'est jamais quelque chose qui a été porteur, mais je dirais qu'Excel Saga, c'est presque un accident industriel dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est étonnant que ça ait marché.
Et c'est marrant qu'on en revienne à cette question d'accident qu'on avait déjà vu dans la production de Kaamelott, c'est-à-dire que il faut peut-être en soi que toute parodie dans un qui se veut novatrice et qui se veut un petit peu aller au-delà des codes qui sont les certains carcans, comme pour reprendre les mots que tu utilisais, il faut aussi un petit peu que il faut aussi jouer en dehors des règles au sein même de la production. Et du coup, il y a un vrai parallèle qui est fait à la fois dans le contenu du manga, puis aussi dans la production même du manga en tant que tel, quoi. C'est assez intéressant. Alors, juste pour terminer, vu qu'on va arriver à l'aboutissement de ce podcast, j'aimerais mentionner avant tout l'existence d'une parodie de parodie, notamment au niveau d'Excel Saga, à savoir la saga audio MP3 qu'avait fait Mr. Fox sur Excel Saga, qui s'appelait Access Saga. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter, me semble-t-il? Non, je ne sais pas.
Alors, je connais l'existence, j'ai pas écouté.
Oui. Ouais. Je savais plus si tu m'avais dit que tu avais écouté.
Non, en tout cas. Mais je connais l'existence de cette chose.
Ouais. Peut-être juste pour l'existence d'un tel objet, qui est très drôle au passage, c'est-à-dire une parodie, je ne peux que mentionner son existence. Vous pouvez le retrouver, vous tapez Access comme le nom de la société secrète qui joue...
Across.
Across, mince.
Peut-être Across Saga, du coup. Enfin, je ne sais pas, en tout cas les vrais retours.
Non, c'est Access Saga, ça n'a rien à voir, en fait. Je suis bête.
C'est une parodie d'Across.
J'ai vu un... Ah oui, c'était ça, peut-être. Me semble-t-il que c'était une parodie.
Bravo Mr. Fox, en tout cas.
Oui. Puis sinon, peut-être un dernier mot, peut-être une dernière peut-être anecdote ou information que tu voulais mentionner sur Excel Saga qu'on n'aurait pas...
Excel Saga, on va y arriver.
J'aime pas les noms, comme tu le vois, mais je ne retire jamais les noms et je les confonds tout le temps, même si j'ai vu la série.
C'est pas grave du tout. Non, en fait, il y a un truc que je voudrais quand même signaler. Déjà parce que, comme je l'ai dit, Excel Saga, c'est une œuvre qui a pas tant vieilli que ça. Techniquement, bon, ça, c'est sûr, c'est en 4 tiers. Comme je l'ai dit, ça a été produit à un moment où l'animation japonaise commençait à avoir un peu à pédaler dans la choucroute, donc même si c'est un grand studio qui l'a fait, il y a des fois des petits ratés techniques, donc bon. Malgré ça, c'est une série qui se revoit très 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 agréablement, je trouve, aujourd'hui, même si je suis pas objectif.
Je peux confirmer, pour l'avoir vu pour les besoins de l'épisode, je confirme que ça se regarde très bien, de mon point de vue. Voilà.
Bon, bah, tant mieux, alors ça va. C'est que je me suis pas trop... c'est pas moi qui suis un vieux crouton, alors ça va. En fait, c'est une série qui, du coup, vaut le coup d'être vue et qui est facile à revoir. Parce que, déjà, il y a un coffret DVD intégral de très bonne qualité qui est sorti en France et qui se trouve encore en neuf pour une 20aine d'euros. Donc, ça fait pas si cher payé que ça. Il y a également un manga, du coup, comme j'en parlais, et vraiment les deux offres sont complémentaires, elles ont une approche complètement différente. Alors le manga au début c'est un peu dur, hein. Le premier tome faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas terrible, mais la suite ça devient vraiment assez ambitieux. Il y a un ton qui devient un peu plus sérieux au bout d'un moment, alors sans aller jusqu'à dire que ça devient dramatique, parce que ça reste quand même une grosse farce, quoi. L'histoire va beaucoup plus loin, encore une fois, hein. L'animé adapte que vraiment le tout début d'Excel Saga. Et alors bon, le manga, il n'y a que les 8 premiers tomes qui sont parus en français. Puisque simplement ça a été une très 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 mauvaise idée hein, d'un éditeur, je crois qu'il s'appelait Kabuto, qui a décidé ouais on va faire Excel Saga comme titre de lancement phare, sauf qu'en fait bon évidemment personne n'a acheté ça parce que l'animé était bien mais le manga était c'est dur quoi comme titre de lancement, c'est moche, l'humour est vraiment ultra référencé, l'édition était pas extraordinaire en plus hein, l'édition française. J'ai quand même acheté les 8 tomes, s'il y a des gens de Kabuto qui nous écoutent, oui c'est moi qui ai acheté les 8 tomes, voilà. Et les autres, enfin l'intégrale, donc les 27 tomes peuvent se trouver assez facilement chez un éditeur anglophone qui s'appelle Viz Media. Y a des versions numériques qui existent et qui sont pas trop chères. Donc si jamais vous vous piquez d'une passion délirante pour ce manga et si vous voulez voir notamment tout ce qui n'a pas été adapté par la série, jetez un œil, c'est vraiment facile à trouver. Ça se trouve très facilement en Angleterre, puisque dans les pays anglo-saxons. Contrairement à ce qui s'est passé en France, Excel Saga est vraiment devenu culte. C'est-à-dire que c'est un animé qui est devenu très connu, qui a très très bien fonctionné aux États-Unis.
Je trouve ça très étonnant, pour la simple raison parce que c'est vrai que dans l'absurde, il y avait un petit côté anglais aussi. Et déjà, on avait le cartoon qui fait plus penser aux États-Unis, mais même dans l'absurde, il y avait un petit côté anglais, j'ai trouvé.
Ouais, tout à fait. Ça a vraiment très, c'est devenu vraiment culte en fait aux États-Unis. Du coup, le manga en fait a été un énorme succès là où il s'en vendait 300 exemplaires par tome en France, quoi. Donc
Ce qui est sur le marché du manga une exception, puisque en général le marché du manga fonctionne plutôt bien en France. On a c'est peut-être le deuxième ou troisième pays plus gros consommateur.
C'est le deuxième après le Japon. Voilà. Même si en France on a un petit problème. Alors là c'est le métier du livre hein, qui parle, parce que je suis bibliothécaire. On a en France un problème qui est en train de se résorber un petit peu de surproduction, c'est-à-dire que les mangas globalement se vendent bien, mais il y a trop de titres par rapport au nombre de lecteurs. Du coup, la vente moyenne du tome a eu tendance à baisser ces dernières années. Mais c'est pas tant une désaffection du manga que trop d'éditeurs qui sortent trop de choses.
En D'accord. Fait. Du coup, je t'avais coupé pour dire cette information. Tu te disais.
Non, mais c'est un manga, c'est un animé qui vraiment se trouve facilement et pour pas cher. Il faut pas hésiter à essayer la VF hein, si vous voulez écouter l'excellent travail de traduction qui a été fait. Si vous avez envie de pousser vraiment encore un peu plus l'expérience, faut pas non plus hésiter à acheter un œil au manga qui du coup se trouve au moins en version numérique assez facilement et légalement.
Donc voilà, donc j'espère que en tout cas on a pu répondre à tout cas, si vous êtes intéressé par là, si ça vous a donné envie de regarder, de jeter un coup d'œil à tout l'univers d'Excel Saga, oui.
Oh, maintenant. Excel.
Pourquoi j'ai parlé de Mr. Fox? Du coup, maintenant, j'ai la parodie de la parodie en tête. C'est horrible. Du coup, il est
fantastique, Mr. Fox.
Il est grand temps de conclure cet épisode. Merci infiniment, Samuel, pour ses apports culturels inestimables. Qu'on pourrait peut-être retrouvé en partie sur la page Wikipédia d'ailleurs.
Ah, puisque... voilà une anecdote que j'espère gagner. la page Wikipédia francophone d'Excel Saga est vraiment, vraiment, vraiment horrible. Je considère que je n'en suis pas responsable puisque c'est mon moi adolescent que j'ai tué en grandissant. En fait, par contre, je remercie surtout pas les gens qui n'ont pas effacé cette page. C'est-à-dire que la page francophone Wikipédia d'Excel Saga, c'est moi qui ai très mal écrit quelque chose quand j'avais 16-17 ans et des gens qui ont mal écrit par-dessus mon truc mal écrit. Donc je pense que c'est une des pires pages du Wikipédia francophone. Je comprends pas que personne ne l'ait jamais supprimé ou signalé comme du charabia, quoi.
Enfin,
la page anglaise est très bien.
Eh bien, en tout cas, s'il y a des gens qui sont des Wikipédiaphiles et qui veulent refaire la page, maintenant, je pense que vous avez un nombre d'informations plutôt intéressant pour refaire cette page-là. C'est peut-être une invitation, c'est pour ça que je me suis permis de dire cette information, une invitation à tous les gens qui font la rédaction sur Wikipédia pour refaire cette
page. C'est ma faute, hein. je pourrais la refaire moi-même maintenant, mais j'ai pas envie. Quoi.
Non,
c'est mon travail de jeunesse, quoi. C'est mon premier gribouillage.
Ouais, donc, merci beaucoup Samuel.
Merci à toi.
On se retrouve donc, là c'était encore une partie de notre tour du monde parodique. On se retrouve donc dans le mois prochain pour une parodie qui va nous amener pas très loin de la Russie. Je l'espère pour un film qui sera meilleur. En tout cas, vous aurez l'occasion d'écouter ça dans un mois, avant le grand final de la saison. Je sais pas si c'est la saison 1, la saison 2, parce que la première saison, elle était assez courte. On va dire la saison 2, allez, on va se faire plaisir. En tout cas, je vous laisse avec les bandes annonces où vous pouvez aussi retrouver des émissions, où vous pouvez aussi retrouver Samuel. Merci à Radio Jawa, producteur, diffuseur de cette émission. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite bonne soirée, bonne écoute, et puis n'hésitez pas du coup à aller jeter un petit coup d'oreille aux autres émissions de Radio Jawa. Bisous.
Bisous.
Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
Ah, cachez vos enfants, ils arrivent.
Radio Kawa présente LOL Japon.
Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film! Je me demande bien comment ils peuvent faire ça!
Eh dis donc, Jiboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche! Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel! Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Jiboite!
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Jiboite!
Allez, Marcel, au studio!
Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Jiboite.
Une fois par mois.
Sur Radio Kawa.